Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ça ramène ta charrue avant les pluies.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h05. Daniel Riolo et Thibaut Leplat sont là. On est en direct sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after. Où Thibaut, t'as été surnommé Febreze, agent purificateur.
Ouais, ouais, hein. Ça me change de philosophe du Wish.
Chez Pure Essentiel, c'est le numéro 41. Le 14. Produit 14.
Ah, mais t'es vachement calé.
Dans les grandes
ouais,
maisons.
Parce que Pure Essentiel, il était partenaire des RMC au
oui,
Sport Game.
Bien sûr.
On en avait dans les sacs.
Oui, oui, oui. Mais t'as réussi à retenir les numéros.
Ça purifiait, ça sentait bon.
D'accord. Tu utilises les Roll-On aussi
Roll-On, je crois que c'est un peu mytho. Enfin, je suis pas sûr.
Ah ouais,
c'est Tony Parker qui fait la promo de ce truc.
Toujours avec, Hubert, ah oui, avec Antoine Dupont, il y a eu un pas. Ça marche pas, il a dit.
Mais les produits Pure Essentiel sont extraordinaires. Et le 14, il purifiait. C'est Thibaut. C'est Thibaut en petit vaporisateur.
Mbappé au programme, les gars, dans quelques minutes. On sera avec Jean-Baptiste Guégan, auteur, qui sort un livre Révolution Mbappé qui vient juste de sortir. Et justement, Mbappé révolutionne-t-il le football? On va se poser la question avec lui et avec vous au 32-16. En fin d'émission, le meilleur de l'actu du jour, avec notamment les dernières infos RMC sur le Ramadan et l'équipe de France première cette saison. Voilà, fallait que ça tombe, c'est aujourd'hui.
Chaque année, polémique.
D'ailleurs, c'est un peu tard. Hein, ça fait 9 jours que le Ramadan a commencé. C'est de plus en plus tard. On vous donne les infos tout à l'heure.
Et bientôt, ça tombera après le Ramadan.
Oui, peut-être, peut-être. Mais d'abord, les gars, c'est un peu l'autre événement de cette trêve internationale.
Parlant de Ramadan, j'ai une anecdote rigolote.
Sur le Ramadan?
Oui. Aujourd'hui, je suis allé me faire couper les cheveux. Et mon barbeur...
J'avais pas vu par rapport à hier. Il n'a pas coupé beaucoup.
Mais je connaissais pas ce concept.
Il a fait le petit dégradé,
il a bien rigolé. Ouais. Il était là, il y avait pas mal de gens, petit salon, on rigolait et tout. Et un disait qu'il faisait le Ramadan et tout. Et l'autre, il dit, ouais, moi aussi, je fais, mais moi, je fais le Ramadan américain. Je regarde, je fais, excuse-moi, c'est quoi? Il me fait, c'est le Ramadan normal, sauf que tu manges à midi.
D'accord.
Bah, ça m'a fait marrer.
Okay. Le régime, quoi, en fait. Oh.
Non, justement, je pense qu'il était bien pourtant. On est d'accord. Ouais. D'accord. Très bien. Parfait. Combien la petite coupe
15 balles.
15 euros. Ah. Tu y retourneras?
Bah oui, très sympa, le gars et tout, c'est bien marré.
Pour qu'on fasse, je sais pas, dans une libre antenne, vous avez fait vraiment barbeur versus coiffeur?
Ah, on l'a pas fait, mais c'est une excellente idée.
Moi, j'ai du mal à comprendre vraiment la différence.
Enfin, toi, tu vas chez Franck Provost?
Moi, je suis Franck Provost, Jean-Louis David,
évidemment.
Je demande le rafraîchissement.
Moi, j'ai complètement arrêté.
Le rafraîchissement.
J'ai arrêté ça.
Et toi, t'es plus, tu vas toutes les semaines, tu vas chez le barbeur.
J'y vais toutes les semaines, mais j'ai arrêté ça, ce truc et tout. Maintenant, je vais comme ça. En plus, l'ambiance est
déjà. Mais je pense que barbeur, c'est vraiment.
À chaque fois, on discute et tout.
T'as vraiment une coupe attitrée. C'est-à-dire que c'est la coupe barbeur.
De jeune, tu fais pas la coupe.
Ah, si, t'as un peu le dégradé.
J'ai vu en arrivant. Je veux pas que je fasse ça. Tu vas avoir
le truc de Benzema, là. Comme
en plus, il a quasiment rien coupé. J'avais même pas vu que t'étais allé chez le coiffeur.
Ah bah, mais
t'es sûr qu'il a coupé? T'es sûr qu'il a coupé?
Évidemment.
Et ils font ça à la tondeuse. Ils font pas ça au ciseau.
Si, il a utilisé les deux.
Les deux. Bah,
il est bon. Bah, tu crois que c'est
les deux?
Tu crois que c'est un boucher ou quoi, le mec?
Je comprends pas.
Il sait faire.
Alors c'est quoi le barbeur?
Il sait.
Tu fais le. Il fait.
Mais non, mais c'est juste la façon dont ils ont monté ces salons. Ça s'appelle comme ça parce que c'est.
Mais non, mais les prix, c'est pas les mêmes.
Mais en fait, ils sont pas du tout anglo-saxons. Dans les barbeurs, c'est pas des Anglais, les mecs.
Chez
les Américains, t'inquiète.
Pour eux, c'est 35 euros la coupe dans un barbeur.
Moi, 15 balles, je suis désolé. Quand je me suis rendu compte qu'avec deux fois moins, ils faisaient tout aussi bien, j'ai arrêté. Voilà, c'est tout. Ouais.
Mais en même temps, je pense que si Thibaut va dans ton barbeur Daniel, ils savent pas quoi faire de ses cheveux, je pense. Tu vois?
Ouais, si je sors avec un dégradé, avec le truc de Benzema, les gens vont.
T'inquiète pas, viens chez le mien, viens chez mon pote, tu vas faire un truc génial.
Chez l'américain, là?
Moi, j'ai le problème de sourcils.
Marrant, t'es américain. Tu vois, franchement, on s'est éclaté, il m'a fait trop marrer, le mec.
23h08, l'after. En attendant de parler de Mbappé, oui, justement, j'allais vendre la revue, les gars, de l'after, qui est sortie il y a quelques jours, avec en une George Mendes et les agents, avec ce métier souvent décrié, dans lequel la revue de l'after a enquêté, et peut-être qui a permis de faire tomber quelques idées reçues. C'est la vie tranchée de Thibault Leplat.
Et le mec s'est mis à ouvrir un garage de moto. Il avait fait une philosophie de la moto. Il explique le plaisir du mec qui vient réparer sa moto. Et le moment où il lance l'accélérateur, il l'entend, il fait yeah, comme ça, il dit ça.
Thibaut, vas-y, avis tranché. On se serait trompé sur les agents.
Écoute, et je vais te dire sincèrement, quand on a commencé, on s'est posé la question de ce sujet-là avec Daniel et Gilbert. Moi, j'ai toujours une vision des agents. Alors, on connaît un peu Bruno Satin, Yvan Lemay, qui viennent ici souvent, qui sont sympas. Mais moi, le milieu des agents, bon, je suis prof de philo de formation. T'imagines que je suis un peu loin quand même du milieu des agents. N'était pas un milieu qui m'a jamais semblé très sympathique. Parce que milieu d'intermédiaire, un peu obscur, les personnages comme Mino Raiola me semblaient toujours un peu énigmatiques. J'ai du mal à les admirer, à part des histoires d'aventure. J'avais du mal vraiment à aimer ce métier-là. Parce que c'est toujours un peu
parce
des
intrus. Tu collais plein de clichés,
ouais,
c'est des escrocs.
Ouais, voilà.
Il y a de l'argent louche.
C'est les mecs qui s'interposent entre toi et les joueurs, c'est les mecs qui s'interposent sans arrêt, en fait, les agents. Mm-hmm. Et effectivement, quand tu es de l'extérieur, tu te dis, et à juste titre souvent, que c'est, oui, c'est en gros, ça peut être un métier d'escroc, quoi. C'est un peu ce que tu te dis. Que
ça l'est, ça peut l'être, oui.
Et en travaillant sur ce numéro-là, j'ai petit à petit un peu revu mon jugement. En me rendant compte que, alors évidemment, il y a, comme dans tous les métiers, des bons, du mauvais, etc. Il y a un chiffre, peut-être, qu'il faut donner. En France, il y a un peu plus de 1000 joueurs professionnels, 1200 joueurs professionnels, et il y a 600 agents licenciés. Donc, quand t'as compris ça, t'as compris tout le problème. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'agents pour très très peu de joueurs. Donc, une concurrence énorme. Et donc, une concurrence énorme égale la loi de la jungle dans beaucoup de cas. Donc, il y a de tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce dossier-là, on a voulu montrer ce que c'était que le travail, si je puis dire, pas d'un bon agent, mais de traiter le problème de l'honnêteté. Je voulais qu'on le traite comme ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être un agent honnête? Ça veut dire quoi faire son travail correctement? Et que, en fait, le métier d'agent, et dont on parle très peu, parce qu'on parle toujours d'argent, quand on parle d'agent, mais on parle pas du métier, très peu. Et le métier, qu'est-ce que c'est? C'est un beau métier.
Ce qu'ils font réellement.
C'est-à-dire le métier de conseil.
Parce qu'en fait, on ne s'attarde que sur l'idée qu'il gère le transfert. Voilà. Et il va dans le bureau du président pour négocier le salaire et dire.
Ce que nous disent les agents-là, à commencer par Raphaëlla Pimenta, on était très content de pouvoir compter sur elle sur cette revue-là. Peut-être c'est l'agent qui a succédé.
C'est beau, quand même, d'avoir interview de Raphaëlla Pimenta.
C'est énorme.
Qui succédait à
Mino Raiola.
Est-ce qu'elle a repris le contrat Verratti, d'ailleurs, tu m'as demandé?
Non, je vais pas demander. Je crois qu'elle a pas eu près tous les contrats parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont partis.
Il y a plus rien à gérer, de toute façon.
Non, mais elle a toujours Haaland, elle a toujours Mkhitaryan, elle a toujours pas mal de joueurs.
Lâche pas.
Donc,
Pitbull.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que 98% de son travail, c'est du travail gratuit. Ça consiste à accompagner les joueurs, à les aider, et ils facturent de temps en temps, mais 98% du travail, c'est accompagner les joueurs dans leur vie parfois, dans leur vie familiale de temps en temps, mais surtout dans leur vie professionnelle, et construire avec eux, et ça, Yvan Lemay en parle aussi très bien, construire un projet de carrière au sens noble du terme, c'est-à-dire une progression. C'est-à-dire prendre le temps, pas mettre le joueur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'exemples, en fait, d'erreurs de casting et des bons exemples de choix de carrière. La carrière d'un joueur, c'est extrêmement fragile, c'est en moyenne 4 ou 5 ans, le joueur professionnel, et qu'il faut faire les bons choix. Et les bons choix, c'est pas les choix qui payent le plus. Et le problème de ce milieu du foot-là, et de plus en plus maintenant, c'est qu'on n'a pas le temps. Et l'agent, soit il a pas le temps et auquel cas il va au plus offrant, soit il prend le temps et auquel cas, à mon sens, c'est peut-être un bon agent parce qu'il prend le risque que le joueur lui dise non. C'est d'ailleurs, on pose souvent la question là. Il dit si, est-ce qu'il faut dire la vérité au joueur? Ils répondent tous là-dessus. Et est-ce que tu peux dire non à un club comme un grand club vient? Est-ce qu'il faut dire non? Et je trouve que ça en fait un métier intéressant. Évidemment, sur le rapport de tous les agents, à mon sens, les très bons agents, on a essayé de les regrouper là, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a certains qui sont là, d'autres qui n'ont pas voulu participer pour d'autres raisons. Parce que c'est difficile, c'est un milieu très difficile d'avoir des agents qui parlent à visage découvert. C'est très difficile. On a réussi à en avoir parmi les plus importants, donc on est très contents. Mais ça montre une chose, c'est que ce métier-là peut être bien fait, mais que c'est un métier extrêmement difficile. Et pourquoi bouc émissaire du foot business? Parce qu'au final, ça leur retombe toujours un peu sur la gueule, que ce soit du côté des dirigeants, qui en veulent toujours aux agents, de prendre trop des commissions trop importantes sur les négociations, de la part de la FIFA qui a essayé de réguler ce métier-là.
Le principal problème vient de la régulation. De qui est agent, de qui se dit être agent.
Et en fait, ils sont la partie émergée du foot business. Et c'est pour ça qu'on leur retombe dessus. Alors que c'est un métier qui est vieux comme le monde, on le voit, vous verrez dans la revue, c'est un métier très ancien.
Maintenant, il se trouve que aujourd'hui, j'ai dû m'intéresser à, parce que la semaine prochaine, il va y avoir le verdict, enfin le jugement sera rendu dans l'affaire Saïd Chaban autour de ce qui s'est passé à Angers et justement des agents qui ont énormément croqué, qui ont quasiment fait couler le club. Et c'est qu'effectivement, il y a quand même un aspect un peu Far West où c'est ouvert pour tout le monde. Et à côté de ceux qu'on a pu rencontrer dans la revue, qui bossent depuis des années, et, c'est difficile de dire la majorité travaille correctement ou une minorité sont des truands. Il y a pas d'évaluation.
Donc c'est possible d'être aussi de travailler correctement.
C'est très difficile de faire une évaluation sur la proportion d'honnêteté ou de malhonnêteté. Toujours est-il qu'en France aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire le ménage là-dedans dans ce qu'on appelle les agents sportifs au sens large. On en a beaucoup traité dans l'after. Des membres de la famille du joueur qui avaient envie de jouer les agents, mais qui, comme ils n'avaient pas le diplôme, ça coquinait avec un avocat qui gérait tout l'administratif. Et c'est une tendance
les
assez lourde.
Les prête-noms, le problème des prête-noms, voilà. Parce que comme t'as des types qui t'as 600 agents et t'en as un quoi, 150 qui exercent. Tous les autres, c'est souvent des prête-noms qui eux financent, en facture, l'idée de signer un contrat au nom d'un autre, ce qui permet à des gens qui ont rien à voir avec le business de s'y engouffrer.
Et de croquer là-dessus. Et suite à ce jugement la semaine prochaine, je pense qu'on en parlera à ce moment-là, parce qu'on va voir de quelle façon seront condamnés et surtout qui. Parce qu'énormément d'agents ou de faux agents sportifs rôdaient autour du club et c'était un petit peu...
Il y avoir des noms qui vont tomber la semaine prochaine.
Des types, probablement, certains dont les noms ne seront pas connus. Ouais. Parce que c'est des gens qui se disent agents et qui ont tourné autour du club. Et qu'il y ait aujourd'hui une cellule dédiée à ça dans la police en France, oui. Et des commissaires qui travaillent là-dessus pour démêler un petit peu tout ce monde qui est très 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 confus, je pense que c'est une bonne chose. Alors certains diront ouais, vous êtes dans l'illusion que ça va pouvoir régler des choses, on continuera toujours à bricoler machin. c'est possible. Ça empêchera pas d'entretenir les légendes sur les rapports entre certains clubs et certains agents quand on parle des catalogues. C'est de l'ironie, mais à demi-mot, quoi, finalement, parce que c'est une réalité. Quand t'as à la tête de certains clubs des gens qui sont pas réellement compétents ou qui connaissent pas le milieu, ils s'en remettent à un ou deux agents et ils disent, bon, vas-y, aide-moi à faire l'équipe.
Parce que souvent,
et puis en fait, après l'agent, c'est comme s'il a une emprise un peu sur le club, en lui disant, je vais te proposer ça, je vais te favoriser ce deal, je vais te sortir tel joueur, essaye de me trouver une solution pour un tel. Et en fait, c'est des services rendus.
Mais parce
qu'on se rend des services.
Il y a un truc dans le.
Et ça donne l'impression de cette tambouille.
Que j'ai découvert là, dans les enquêtes qu'on a faites, c'est que, en réalité, Le bon agent, il connaît très bien le foot. Et souvent, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études.
Ah, bah oui.
Voilà. Oui, mais enfin, c'est pas une évidence.
Bruno,
mais par rapport aux dirigeants, ça explique aussi l'emprise qu'ils ont sur les dirigeants.
Bien sûr.
C'est des gens qui connaissent très bien le foot, qui sont dans leur métier, le football, qui sont 300 jours par an dehors, qui vont regarder des matchs, qui connaissent tous les directeurs sportifs, qui savent les besoins dans lesquels ils sont. C'est ça le travail d'agent. C'est un travail de l'ombre. C'est ce travail gratuit dont on parlait tout à l'heure. C'est ce travail d'aller voir, discuter, savoir ce dont ils ont besoin. Et donc là, ce travail-là est pas rémunéré. Ce travail-là est invisible. C'est ça le travail d'agent en réalité. Il est là et le cœur du métier, c'est ça. Le cœur du métier, c'est le football. Et tu te rends compte que tu as affaire à des gens dans le cadre de Rafaela Pimental par 8 langues. 8 langues.
Elle l'a fait en français, évidemment.
Elle l'a fait en français parfait. Mais elle parle hollandais, brésilien, espagnol, anglais, je ne sais plus quelle autre langue encore. Bruno Satin, il parle 5 langues. Tous les agents importants. Sont des gens qui ont...
Si on galère en anglais LV2, par exemple, c'est un métier...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as affaire à des gens brillants dans certains cas.
Ouais, ouais.
T'as affaire à des gens qui sont vraiment compétents. Et qu'un des problèmes aussi, c'est que certains dirigeants qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, soit se reposent sur des gens qui sont compétents, mais qui n'ont pas forcément une moralité nickel, ou alors des gens qui font très bien semblant, qui ne sont pas forcément compétents, mais qui vendent très bien leur business. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que là, j'ai essayé d'aller au-delà de mes propres préjugés là-dessus. Et grâce, avec Daniel et Gilbert, on a travaillé sur les différents thèmes et notamment différents angles, notamment l'angle historique aussi. Et on se rend compte que dès les années 20, dès la naissance du professionnalisme, même avant, les agents existaient.
Et angle intéressant aussi, les relations agent-journaliste.
Oui. Papier de Timothée Mémon.
Et anecdote de Daniel